Chapitre 45. Le commun des immortels. Le temps est froid et gris en ce dimanche soir de fin novembre. Voilà une semaine que le brouillard n'a pas quitté le village et les fourneaux tournent à plein régime. Eric et Gaël sont partis marcher dans la nuit. Les frontales vissées sur la tête et de grosses chaussettes de laine dans les chaussures. Ils l'avaient prévenu en septembre, quand ils ont démarré. Par tous les temps. Ne jamais relâcher l'effort. Sébastien est rentré chez sa mère avec le dernier train. Valentine doit préparer la classe. Elle a pris du retard. Greffer une nouvelle organisation sur la précédente nécessite une adaptation qu'elle n'a pas su gérer immédiatement. Passer d'un statut de célibataire à l'accueil d'un homme dans son lit, d'un autre à sa table, d'un autre encore elle ne sait pas trop où, et d'une petite fille curieuse de tout prend forcément la place de ses anciennes activités, auxquelles il lui est difficile de renoncer. Alors, elle compose, elle rattrape, elle s'impose des urgences quand elles deviennent absolues. Comme ce soir. Annanina est allée prendre une tisane chez Gustave avant le dîner, pour que Valentine puisse travailler et les garçons se dépenser. Le vieil homme a fait un feu dans la cheminée, au salon, et ils se sont installés chacun dans un fauteuil pour tricoter. Il y a quelques semaines, il a appris le point mousse à la petite, qui s'est lancée dans une écharpe. Lui fait des carrés pour ses éternelles couvertures. Le feu crépite, et les flammes animent des ombres dansantes dans la pièce. La lumière du vieux lampadaire du salon suffit à les éclairer. Ils peuvent passer de longs moments sans parler. Elle, concentrée pour ne pas se tromper. Lui, apaisé par le moment de calme. C'est une étrange déclaration d'Annanina qui vient rompre le silence. « J'ai vu maman hier soir. »«
Comment ça, tu as vu ta maman hier soir ?»«
Elle était debout. » Au pied de mon lit.
Tu as peut-être rêvé.
Non, non. J'avais ma petite lampe allumée à côté du lit. Je venais de poser mon livre. J'allais éteindre.
Tu as peut-être rêvé cette scène-là aussi.
Je te dis que non. Je me suis même pincé pour être sûr. Regarde,
dit-elle en montrant la trace rouge de ses ongles sur son avant-bras.
« Et elle t'a parlé ?»«
Non. Elle était debout au fond de la pièce. Elle me regardait en souriant. »«
C'est la première fois ?»«
Oui. Elle est belle, ma maman, comme sur les photos. »«
Oui, j'en ai vu une dans la roulotte. Elle est très belle. »« Tu as eu peur ?»«
Ben non. » Pourquoi j'aurais peur de ma maman ?
Gustave hésite à prononcer le mot, craignant de ramener trop violemment la fillette à la réalité.
Parce qu'elle est morte, ta maman.
Papa m'a toujours dit que les morts étaient quelque part autour de nous.
Oui, mais personne ne sait comment.
Moi, je sais pour maman. Elle était debout au pied de mon lit.
Ça a duré longtemps ?
Non. Le temps de me pincer et elle a disparu.
Tu en as parlé à quelqu'un d'autre ?
Non. Pas encore.
Garde ça pour toi. Tu veux bien que ce soit un secret entre nous ?
Je ne dois pas le dire à papa ?
J'ai peur qu'il s'inquiète. Ce n'est pas courant de voir les morts. Ça peut effrayer les gens.
Parce que tout le monde ne les voit pas ?
Loin de là. Tu veux que je te dise un autre secret ?
Ben oui, entre nous les secrets, on connaît.
Moi aussi je peux les voir. Mais je ne le dis à personne.
Tu as vu maman ?
Non, jamais. mais je n'ai jamais cherché à le faire.
Tu crois que je la reverrai?
Je ne sais pas, ma petite. Mais je te propose de ne pas y penser, de ne rien provoquer, de laisser venir, sans rien forcer.
C'est grave ce qui m'arrive, tu crois?
Pas du tout. Mais c'est sérieux.
D'après moi, c'est une chance quand on sait se servir de ce don.
C'est un don?
Oui. Tu en as plusieurs, mais celui-là, je ne m'y attendais pas. En revanche, ça peut être compliqué à gérer.
Pourquoi?
Je t'expliquerai. Pour l'instant, n'y pense pas. Prends les choses comme elles viennent et tu m'en reparles si jamais ça t'arrive à nouveau. Tu veux bien?
D'accord. Je ne savais pas que c'était bizarre.
Ça n'est pas bizarre. C'est beau, mais rare. Et là, c'est l'heure de te coucher. Tu viendras continuer ton écharpe un autre jour, d'accord?
Gustave la regarde partir après qu'elle l'a embrassé, juste au-dessus de sa joue mal rasée. Il a su maîtriser sa surprise devant elle, mais il est bouleversé. En revanche, il n'est pas étonné. Anna Nina a cette lumière en plus, cette immense sensibilité. Elle est comme entre deux mondes, à flotter un peu au-dessus du commun des mortels. Non, il n'est pas étonné. Mais il sait que ce sera compliqué. La médiumnité est mystérieuse. Elle inquiète. Il faut souvent s'en cacher. Gustave n'a jamais voulu en parler à personne, du moins pas avant un long moment. Il a commencé à voir des morts quand il était petit, vers 10 ans peut-être. Il l'aurait dit à ses parents, il se serait pris une raclée et personne n'aurait plus jamais voulu qu'il en parle. Il a eu peur parfois, très peur. Il les voyait ou les sentait. Pour certains, il les entendait seulement. Et il n'était pas toujours bienveillant. Il a passé 3 ans à se cacher sous son oreiller. Quand arrivaient les lointains, comme il les appelait. Vers l'âge de 13 ans, il a entendu parler d'une vieille femme dans le village voisin qui donnait des nouvelles de leur mort aux gens qui le souhaitaient. Elle ne faisait pas ça pour l'argent, ce qui, aux yeux du jeune garçon, était un gage de sérieux, mais elle limitait les visites à 2 par semaine. Au-delà, elle perdait son énergie. Il s'est rendu chez elle un jour, en cachette, pour tout lui raconter. Elle n'aurait pas été rassurante ce jour-là, à le guider pour canaliser les contacts. Il serait peut-être devenu fou. Mais elle lui a appris à chasser les malveillants, à choisir les bons moments pour entrer en contact. Elle lui a dit que c'était un don, qu'il pouvait exploiter ou non. Il y aurait forcément des gens pour le traiter de cinglé ou de charlatan. Mais il pourrait aussi faire du bien en apaisant ceux dont le chagrin de ne pas savoir était trop fort. Et puis, ce jour de 1944, il y a eu Suzanne devant la commandantour. Cette jeune femme enceinte est torturée par les nazis pour qu'elle dénonce son mari, un résistant de la vallée. Finalement relâchée quand son Léon s'est livré pour la sauver. Gustave passait par là. Il ne pouvait pas la laisser. Il a pris soin d'elle. Il l'a réconfortée, soignée, nourrie, habillée. Il a fallu la faire passer dans les Vosges en zone plus protégée et la voir accoucher, prendre soin du bébé. Il est tombé amoureux fou d'elle. Mais Suzanne attendait Léon, l'espoir chevillé au corps de le voir revenir. Elle a gardé Gustave pour partager sa vie, mais elle attendait son homme. Il n'est jamais rentré. Gustave, il l'a vu, son Léon. Le visage arraché au fond d'une tranchée, dans un endroit qui ressemblait à ce qu'on connaissait de la Russie. Il l'a entendu d'autrefois, pendant des années, au petit matin.
Prends bien soin de Suzanne. Prends bien soin d'elle pour moi.
Alors quoi? aller la voir, la bouche en cœur, et lui expliquer qu'il pouvait entrer en contact avec les morts depuis quelques années et qu'il avait vu Léon, que celui-ci était mort, qu'il ne fallait plus l'attendre? Bien sûr que non. Elle aurait vu dans cette annonce une façon d'évincer le marié et de prendre sa place. Elle n'aurait jamais voulu y croire et lui en aurait certainement voulu. Peut-être même que cela aurait tout gâché. Alors, il a tout gardé pour lui durant toutes ces années. Quand Suzanne est morte, il n'a plus eu envie d'exploiter ses visions. Aujourd'hui, entendre cette gamine évoquer le sujet remue tout son passé. Il ne veut pas qu'elle souffre, mais pas non plus qu'elle range ça dans un placard. Il va attendre. Voir si cela se reproduit, si cela s'accentue, si elle en souffre, ou si elle est épargnée des mauvais lointains. Si cela s'installe, il en parlera à son père. Cette petite n'a pas fini de l'étonner.